Monsieur Delfour.
Merci. Bonsoir. Je présente Monsieur Delfour parce que je ne suis pas pour rien dans le fait qu'il soit présent ce soir avec nous. Donc c'est un professeur de philosophie, il enseigne en classe préparatoire à Toulouse. Il a écrit 3 ou 4 livres, il est en train d'en écrire un autre sur le nucléaire. Il a écrit beaucoup d'articles, bon, je ne vous fais pas le laïus habituel, vous pourrez le trouver sur internet, sur Wikipédia notamment. Donc ce que je voulais surtout dire, ce qui me tenait à cœur de dire, c'est que il a écrit un livre vraiment formidable qui a fait que j'ai sollicité Pupponvol pour le faire venir ici ce soir. C'est ce livre, La condition nucléaire, qui est vraiment très documenté, très informé, mais aussi très, très profond, très pensé. Et donc tout ça pour dire que M. Delfour, qui est un ancien élève de l'École normale supérieure de Saint-Cloud, c'est ça ?
Oui.
Hein, n'est pas seulement un professeur de philosophie, mais c'est aussi un philosophe. Parce que chez les professeurs de philosophie, il y a des gens très, très bien qui font leur métier honnêtement, mais qui peuvent être parfois des répétiteurs de thèses. Ben lui, ce n'est pas un répétiteur de thèses, il a une vraie pensée, et bon, je suis bien content qu'il soit ici ce soir. Donc je lui laisse la parole. Voilà, merci.
Merci à vous de m'accueillir. Est-ce que on m'entend correctement ? Ça va ? Je suis désolé, hein, j'ai une hypophonie assez durable. Bon, je vous remercie de m'accueillir et je vais essayer de présenter une partie du travail que j'ai accompli sur le nucléaire en quelques points, une quinzaine de points. Le premier point concerne le caractère anxiogène du nucléaire. Ça doit être la 15e ou la 20e fois qu'on m'invite pour parler de ce livre. Et les semaines passant, les mois passant, j'ai de plus en plus de mal à faire ce genre d'intervention. En particulier à cause du fait que ça nécessite de relire ce livre que j'oublie. Et c'est un oubli défensif. Et se replonger dedans, c'est une souffrance qui ne s'arrête jamais. Quoi. Bon, ça c'est le premier point. Alors le deuxième, je voudrais vous proposer en quelques traits qui font système. Parce que on dit beaucoup que le nucléaire c'est très compliqué, ce qui n'est pas faux, mais en même temps c'est un phénomène humain qui a une rationalité, qui a une histoire, qui a une structure, et je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est incompréhensible. Ça arrange bien tout le monde, enfin ça arrange certains hommes de pouvoir d'affirmer que la bombe est incompréhensible ou que le nucléaire est incompréhensible. Je pense à Jean-Pierre Dupuis qui a dit ça dans Le Monde il y a un an et demi, en disant finalement la bombe atomique est impensable. Mais je crois qu'elle est pensable, il faut faire l'effort. Et en particulier l'effort qui consiste à surmonter l'intimidation scientifique. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est de la technoscience très, très complexe. Cette complexité joue un rôle de sélection, elle est utilisée par le pouvoir, par les différentes institutions qui peuvent en tirer profit, pour disqualifier le discours des autres. Soit on a fait Polytechnique ou l'école des mines, et alors on a le droit de parler du nucléaire, soit on a fait tout autre chose et on doit se taire. Donc il y a un usage d'intimidation du discours scientifique qui rend plus difficile l'exploration du domaine. Donc premier point, le nucléaire c'est pas le chaos, c'est pas incompréhensible, c'est pas impensable, il y a une rationalité. Alors je voudrais essayer de démontrer que cette rationalité existe à partir d'un point de départ qui est l'invention de la machine à produire des êtres radioactifs. Je précise tout de suite que les êtres radioactifs, c'est un terme que j'emprunte à la sociologie et des sciences, en particulier à Bruno Latour, qui a travaillé par exemple sur les virus, sur les découvertes de Pasteur, et l'accueil social, la réception sociale de la découverte des virus. Cette découverte sociale, cette découverte a eu un impact parce que Pasteur a réussi à rendre crédible socialement l'existence de ces êtres vivants. Et donc, pourquoi pas parler à propos des radionucléides, d'êtres radioactifs, hein, c'est-à-dire ce sont des êtres parce qu'ils existent, et leur propriété principale est d'être radioactifs. Et ces êtres radioactifs sont intéressants parce que ils sont produits par une machine. le point de départ est là, c'est la grande jouissance technologique de la machine nucléaire. Le réacteur nucléaire au départ est fait pour produire du plutonium, parce que l'uranium dans la nature est inutilisable pour faire des bombes ou une quantité de chaleur suffisante. Et donc dans l'uranium naturel, on prélève 0,7%, je crois, de ce qui s'appelle un uranium 238. Et à partir de celui-là, si on l'enrichit avec un réacteur, on peut obtenir du plutonium, de l'américium, du berkélium, enfin un assassinium de plus, etc. Et donc on fabrique un être qui a une structure naturelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est fabriqué, il existe et on ne peut plus arrêter son existence. Et donc il y a une dimension de démiurgie, une dimension de toute puissance. L'être humain fabrique un être qui n'existait pas auparavant. Ça explose à quelle heure? En général, il y a un attentat pendant mes conférences. J'espère qu'ils seront... J'éteins le mien, comme ça. Je sers de cible, évidemment. J'ai cru apercevoir une Kalachnikov cachée dans l'entrée. Alors, j'en étais où? Oui, la machine à produire des êtres radioactifs. Voilà, le grand truc, c'est ça. La grande jouissance technologique des années 45, c'est d'arriver à fabriquer une bombe qu'on n'a jamais vue auparavant, avec une puissance de destruction immense, quasi infinie, et surtout d'avoir créé des êtres radioactifs qui n'existaient pas dans la nature. C'est que la radioactivité, dire que la radioactivité est naturelle, c'est pas faux, il y a une radioactivité naturelle, mais qui est extrêmement faible. La radioactivité principale dont on parle ici, c'est la radioactivité artificielle, qui est de, suivant la doc, moi j'ai lu la documentation, enfin une bonne partie de la documentation disponible, la radioactivité artificielle est de 200 000 à 2 millions de fois supérieure à la radioactivité naturelle. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, 2 millions de fois, 200 000 fois supérieure, mais ça veut dire beaucoup, je crois. Et donc ces êtres radioactifs sont semblables à des êtres naturels. Ils ont la structure des êtres naturels, mais ils sont produits par la technique humaine. Donc il y a vraiment une dimension de démiurgie, de création, hein, et de concurrence avec une dimension de divinité, qui est le premier aspect. Et il y a cet aspect-là, et puis il y a l'arsenal technique, c'est-à-dire fabriquer des réacteurs qui produisent des êtres radioactifs, puis fabriquer des bombes, puis fabriquer d'autres réacteurs électrogènes. Chaque centrale nucléaire produit un peu de chaleur et beaucoup de radioactivité. D'ailleurs, c'est ce principalement à quoi elles servent. Et si bien des pays dans le monde cherchent à s'équiper en centrale nucléaire, c'est parce que c'est un des outils, un des ateliers techniques qui produit un des ingrédients de la bombe. Donc il y a une dimension de puissance, hein, d'autosatisfaction considérable, et les États équipés en nucléaire ont constitué leur puissance à partir de ça. La grande surprise de 1945, c'est que finalement, les États-Unis, qui semblaient être une démocratie, aient pu produire une machine génocidaire. La bombe atomique est génocidaire, puisqu'elle tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et le paradoxe, c'est qu'on a affaire à une machine qui a une dimension politique qui favorise la dictature. Pour la France en particulier, une historienne américaine qui s'appelle Gabrielle Hecht a montré à quel point la radioactivité devait favoriser le rayonnement de la France. Rayonnement au sens du prestige, etc., et sans doute aussi au sens radioactif. La France était en mal en point en 1945, elle était tombée au fond de l'abîme, comme a dit De Gaulle un peu plus tard. Et il fallait trouver quelque chose pour restaurer la puissance française, abîmée par Vichy, par la collaboration, par la perte de la guerre, finalement. Et la radioactivité nucléaire a joué un rôle très rapide dès 1952. Lors de la création du CEA, qui avait pour mission, du commissaire à l'énergie atomique, qui avait pour mission implicite de fabriquer des ingrédients utiles à la bombe, et pour mission explicite, publique, discutée à l'Assemblée nationale en 1954, de contribuer à la recherche d'un usage pacifique, puisque en 1952, on est un an avant 1953. 1953, c'est Atom for Peace d'Eisenhower. C'est-à-dire un programme de propagande destiné à embellir l'image nucléaire, de façon à protéger la production des bombes, et à faire concurrence aussi à l'URSS qui venait juste d'inventer la leur. Donc une dimension idéologique, de puissance, une dimension psychique de jouissance technologique considérable, et puis une dimension politique de surpuissance, de surclassement. Un État n'a pas besoin d'accumuler des chars d'assaut. S'il a tout de suite une bombe atomique, il fait l'économie de l'armement traditionnel pour être impressionnant. Alors ça, c'est le point de départ. Des machines qui inventent des êtres radioactifs. Et le deuxième aspect dérive directement du premier, c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Le deuxième aspect, c'est l'impuissance. C'est-à-dire qu'une fois que les êtres radioactifs sont fabriqués, ils sont là pour 100 000 ans, pour 200 000 ans, pour certains pour plusieurs milliards d'années. Ce n'est pas les plus nombreux. Hein. Le pays 239, qui est le plus nombreux, qui est la substance la plus fréquente, a une vie de radioactivité de 240 000 ans. 240 000 ans, c'est une dimension qui nous échappe totalement. Et on ne sait pas comment arrêter la radioactivité. Le problème de fond, c'est qu'il y a une puissance d'un côté qui démontre sa capacité par l'explosion des bombes et par le fonctionnement des centrales électrogènes, mais on ne sait pas quoi faire des déchets, mais on ne sait pas décontaminer. On sait faire exploser une bombe, mais on ne sait pas aller chercher les radionucléides dispersés sur toute la planète pendant des décennies. Chaque installation nucléaire de base pollue tous les jours. Hein. Golfech, qui est pas loin d'ici, c'est encore proche d'ici, Golfech, non, c'est ça?
Oui.
Golfech, comme toutes les installations nucléaires, a une autorisation de diffusion dans l'environnement de masse de radionucléides qui sont indiquées au journal officiel tous les ans et déterminées au Conseil d'État. Avec ce petit détail, c'est que chaque centrale doit vérifier chaque année si elle remplit la demande ou pas. Et celui qui mesure la radioactivité dans la centrale, c'est le directeur de la centrale. Le contrôleur est en même temps le contrôlé. Si on était à sa place, évidemment, on ne se tirerait pas une balle dans le pied, on dirait que tout va bien. Donc une réussite apparente. Hein, et puis une impuissance qui est de plus en plus apparente, qui a mis plusieurs décennies à apparaître, mais qui a été aperçue très tôt. Dans le Manhattan Project, dès 1943, il y a des problèmes assez nombreux, hein, de maladies graves et soudaines, de morts très rapides dues à des cancers foudroyants. Et donc, très tôt, on se pose la question de la dose, et puis de savoir, de connaître les effets du plutonium sur l'organisme. Et en 1945, dans le cadre du Manhattan Project, qui était destiné à fabriquer la bombe, a été mis en place un programme qui s'appelait Human Product, et qui consistait à injecter, à leur insu, à des Américains disponibles. Le premier est un noir, un travailleur noir, qui s'est blessé à Oak Ridge. Et puis ce sont des femmes, des enfants, des épileptiques, etc. Des gens socialement moins protégés que d'autres, qui ont servi à qui on a injecté, de manière très volontaire, très consciente, du plutonium pendant une trentaine d'années. Ça a été dévoilé en 1993 par une commission d'enquête sénatoriale par Dick Clinton, qui a eu accès à des documents déclassifiés. Et donc on a cherché une dose maximale supportable, liée aussi au souci de limiter les plaintes en justice et la visibilité de la nocivité des produits. En 1974, Robert Mancuso, qui est un épidémiologiste, a été missionné par l'Atomic Energy Commission américaine pour faire une enquête épidémiologique sur les travailleurs d'Oak Ridge et d'Hanford, les deux sites américains. Les résultats étaient si catastrophiques que les types l'Atomic Energy Commission ont détruit une partie des dossiers de Mancuso, brûlés là, par le feu, les dossiers épidémiologiques de travailleurs. Bon, donc, voilà, pour simplifier, vous avez compris, il y a une incapacité, une impuissance. Une fois qu'un réacteur nucléaire a commencé à fondre, personne ne sait comment l'arrêter. C'est-à-dire que ce soit Three Mile Island, où ça s'est arrêté un peu par hasard, Tchernobyl, où ça ne s'est pas arrêté du tout, Fukushima, où c'est toujours en cours. Fukushima, c'est trois fois Tchernobyl. Hein. Enfin, c'est une fois Tchernobyl, puisqu'il y a un des réacteurs qui est équipé en MOX, c'est un oxyde de plutonium qui est extrêmement dangereux et qui a été inventé par Areva pour liquider une partie de la masse de plutonium, parce qu'on en a trop. Les personnes autorisées à ce sujet disent qu'il y a 430 tonnes de plutonium en France, dont une bonne partie est à la Hague, dans des hangars, dans des piscines de refroidissement, sous des hangars assez simples. 430 tonnes, ça fait 430 milliers de milliards de doses à peu près létales, si on considère qu'un milligramme de plutonium est toxique, enfin, sérieusement toxique. Bon, donc on ne sait pas quoi faire de ça, on ne sait pas arrêter la radioactivité. Au fond, on a affaire à des êtres qu'on ne contrôle pas. Je voudrais insister sur le fait que ça n'est pas une propriété en plus. C'est-à-dire que la surpuissance qui a été découverte grâce au plutonium et aux machines qui l'ont inventée, enfin, fabriquée, cette surpuissance, elle est directement mise au compte positif du nucléaire. C'est-à-dire que on considère ça comme quelque chose de bénéfique. C'est mise au compte positif de la puissance. Mais cette surpuissance, elle est en même temps tellement grande qu'on ne la maîtrise pas. Et c'est cette absence de maîtrise qui est provoquée par le même fait qui justifie, qui explique l'enthousiasme et la joie des nucléocrates. Je ne sais pas si c'est un point très clair, j'ai un peu de mal à exprimer. Alors, troisième conséquence des deux précédentes, donc surpuissance technique, mais impuissance à la mesure de la surpuissance en question, la conséquence, c'est que toute l'humanité présente et à venir est contaminée. Le monde entier est pollué pour des centaines de milliers d'années, c'est une conclusion inévitable. Depuis 1945, depuis l'essai de Trinity au mois de juillet, Hiroshima et Nagasaki, les centaines d'essais nucléaires, dont certains ont donné lieu à des champignons qui font 70 km de haut, avec une boule de feu de 3 km de diamètre, un blast qui est ressenti à 300 km, c'est-à-dire sur un diamètre de 600 km. Donc on a bien pollué le monde entier. En Algérie, les Français ont fait leur part du travail de pollution. L'Algérie a pollué l'Afrique et la Polynésie a pollué l'océan Pacifique avec des effondrements, vous savez, des îles de Polynésie. Où il y a eu, voilà, donc le monde entier est pollué et il est pollué pour 200 000 ans. Au PU 239. Hein. Le césium 137, dont on dit qu'il a 30 ans de vie, en fait, a un siècle. Et donc Tchernobyl est toujours en cours. La catastrophe, c'est assez intéressant culturellement parce que ça demande à changer le concept de catastrophe. La catastrophe, c'est un événement court, désastreux, avec des destructions et des morts. Mais finalement, une fois que le séisme a eu lieu, eh bien, il s'arrête. Quoi. Une fois que le tsunami a déversé son surplus aquatique, il finit par s'arrêter. Il faut imaginer que le nucléaire, c'est un tsunami toutes les 5 minutes. Ou un séisme qui dure indéfiniment. Et qui est d'autant plus compliqué à penser qu'il est invisible. La radioactivité est insensible, inodore, incolore, sans saveur. Il faut des machines compliquées pour la mesurer. Et donc c'est le crime parfait. C'est-à-dire que ce que je dis là, ça veut dire une chose précise, c'est que l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous absorbons, les machines que nous utilisons, sont toutes peu ou prou contaminées. Et on ne peut rien y faire parce que il y en a partout. Il y a des coins en France, notamment la CRIRAD a fait des mesures en 2002 sur un certain nombre de sites et on a découvert que le parc du Mercantour, par exemple, enfin, des zones du parc du Mercantour dans les Alpes du Sud, présente un taux de radioactivité qui exigerait qu'on mette le bout de vallée où ça se trouve, dans des fûts et qu'on les range quelque part. Des fûts en acier prévus pour les déchets radioactifs. Donc on pourrait dire de manière objective, hein, mais j'en conviens un peu choquante, que le monde est devenu une gigantesque chambre à gaz radioactif, avec des... Alors ça c'est très anxiogène. C'est même insupportable. Alors, assez vite, les responsables, si on peut dire, de ce désastre, ont cherché à le dissimuler. Alors, j'étais pas très chaud pour l'hypothèse du mensonge, parce que bon, il y avait beaucoup de signes, dont je vais en citer quelques-uns, mais il y en a tellement. Mais surtout, le problème avec la notion de mensonge, c'est qu'elle donne prise à l'accusation de complotisme. Et surtout, deuxièmement, elle ne permet pas de décrire l'objectivité des faits. C'est-à-dire, il faut savoir pourquoi les gens mentent. On prouve qu'ils mentent, c'est une chose, mais qu'est-ce qui fait qu'ils mentent? Bon, il y a un truc très simple, c'est que c'est naturel. Hein, le pouvoir politique qui tire du pouvoir de l'existence des bombes, de la même manière que les industriels nucléaires qui tirent des profits financiers du fonctionnement des centrales électrogènes, ont intérêt à ce que leur activité passe, à ce que la bombe est-ce que, là, passe pour une bombe normale qui détruit, puis voilà. Et que la centrale électrogène nucléaire soit sans danger. Ils ont intérêt à le faire, donc ils manquent pour protéger leurs propres intérêts. C'est simple. Et cette demande de dissimulation ou d'oubli du déluge radiologique, on parlait du déluge radiologique qui a commencé en 1945, dans lequel nous vivons et nous allons vivre, enfin l'humanité va vivre autant qu'elle le pourra pendant plusieurs millénaires, enfin pendant 200 000 ans, quoi, 240 000 ans. Et bon, ce silence sur le déluge radiologique dont je parle est motivé aussi par le désir de pas d'arrêter de souffrir, quoi. Le désir de anxiolytique, enfin, de casser l'anxiété. Je veux dire. Alors ce travail de dissimulation présente plusieurs formes. Alors, est-ce que j'ai mis ça ? J'oublie un peu parce que c'est tellement insupportable que. Ça vous fait rire. La dissimulation, alors il y a un premier montage, c'est le point 4. Et on m'a dit 40 minutes. Je vais accélérer un petit peu. Quelques faits, un peu de détails. La première idée des nucléologues et des nucléocrates, ça a été de construire une impunité légale. De fabriquer pour les exploitants de centrales nucléaires une impunité légale. Ce qu'ils ont appelé une responsabilité civile exceptionnelle, mais qui est en réalité une irresponsabilité. Tout se passe en 3-4 ans, en 1957-1960. En 57, alors j'ai deux trucs à raconter là-dessus. Attends, je suis en train de me tromper. Oui, d'abord le montage des responsabilités civiles. Je reviendrai sur la période historique tout à l'heure. En fait, c'est deux trucs qui sont semblables. Je suis désolé, hein, c'est un peu la pagaille. Hein. Il faut que je trie, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vous sens très accueillant, très sympathique, et alors, ça accroît mon trouble. Et...
Il ne faut pas être sympathique, alors.
Continuez comme ça. Vous avez bien. Voilà, en 57, il se passe plusieurs choses. Il y a le rapport Brookhaven. Brookhaven est un physicien atomiste, à qui l'Atomic Energy Commission demande de faire une estimation du coût et des embarras suscités par un accident nucléaire. Ça se passe au mois de mars 57, et Brookhaven sort un rapport qui jette le trouble, l'angoisse et même la panique dans le milieu. Brookhaven qui donne des résultats qui sont très très sous-estimés, hein, par rapport aux estimations actuelles depuis 5 ou 6 ans, depuis une dizaine d'années maintenant. Brookhaven, c'est 100 fois moins. Ça suscite la panique et la réponse très rapide, c'est le Price-Anderson Act qui date du 10 octobre 1957, qui consiste à créer une responsabilité exceptionnelle dans laquelle l'exploitant a très peu à dépenser, l'État un petit peu, et les populations civiles se débrouillent à 95%. Donc c'est une irresponsabilité. Et si vous consultez vos polices d'assurance, vous verrez écrit en tout petit dans les colonnes qu'on ne lit jamais, à la fin que la compagnie d'assurance ne couvre absolument rien en cas d'accident nucléaire. Et ça a été décidé en 1957 pour rendre possible l'industrie nucléaire. Alors il se trouve aussi qu'en octobre 1957, il y a l'accident de Windscale. C'est un réacteur au plutonium qui est refroidi par l'air ambiant. Bon. C'est tout à fait hallucinant, mais c'était un truc anglais qui a eu lieu à Sellafield. L'incendie a duré 15 jours et toute la région a été polluée au plutonium. On n'a pas dit grand-chose, donc ça s'est ajouté au trouble. Et donc, on a créé cette législation qui a été transformée en 60 en une convention sur la responsabilité dans le domaine de l'énergie nucléaire. Et en France, c'est la loi du 31 octobre 68 qui a créé les conditions d'une irresponsabilité civile quasi totale de l'exploitation nucléaire. Alors, pour donner un exemple, l'IRSN, qui est un institut de recherche sur la radioprotection et la sûreté nucléaire, C'est une institution d'État. Elles ne sont pas des gauchistes chevelus irresponsables. C'est une institution d'État. Les types ont dit, les scientifiques ont dit, imaginons un accident nucléaire à Dampierre, à côté d'Orléans. On estime que c'est un tiers. Imaginons qu'un tiers du réacteur fusionne, et que le dégagement de radioactivité dure 2 heures. Pourquoi 2 heures et un tiers? Parce que ça fait moins, quoi. Alors, le chiffre du coût estimé par l'IRSN, hein, c'est pas des gauchistes qui disent ça, c'est 430 milliards d'euros, qui est le coût d'un accident nucléaire moyen. Hein. Un tiers du réacteur, 2 heures, puis après ça s'arrête, quoi. C'est pas. Quelqu'un amène un parapluie, ou des Indiens font des incantations, je sais pas. 430 milliards d'euros, alors l'État paierait 345 millions. Les chiffres changent un peu dans la doc, ça monte à 360 ou 400 millions. Le coût total, 430 milliards. L'État dépenserait 345 millions et EDF, 91 millions. 5000 fois moins que le coût d'un petit accident nucléaire. 25 000 km seraient inhabitables, 25 000 km² seraient inhabitables. Il faudrait évacuer 2,6 millions de personnes, dont la ville d'Orléans, mais il serait réaliste d'en évacuer seulement 26 000 et d'indemniser les autres. Alors, à ce sujet, il y a un plan de... C'est pas tout de suite, mais c'est pas grave. Un plan de réponse face à un accident nucléaire majeur qui a été publié le 2 ou le 3 ou le 4 février 2014 et qui prévoit ce qui se passera s'il y a un accident nucléaire en France. Donc, il y a un peu d'évacuation, du confinement. Il faut mettre du scotch sur les fenêtres et attendre de mourir asphyxié. Et puis le rapport, c'est authentique. Hein. J'ai cru que c'était une blague, enfin, que le site de le ministère de la Défense avait été hacké par des plaisantins. Les types disent très sérieusement, il faut passer plus souvent l'aspirateur dans la maison que d'habitude. Il faut prendre des douches pour enlever des douches au savon pour enlever la contamination externe. Et il faut compter, alors c'est les deux parties de la fin du rapport, enfin c'est pas un rapport, c'est un plan. Il faut compter sur la résilience. La résilience, alors de tout, hein, des services publics, des entreprises privées, des personnes, de tout. Traduit en langage un peu populaire, ça veut dire débrouillez-vous. Et le dernier point, qui est assez amusant, c'est la reconquête rapide des territoires contaminés, en fonction de l'évolution elle-même rapide de la situation radiologique. Bon, voilà. Alors, sur le plan historique, donc, alors ça c'était l'impunité légale. Sur laquelle je ne vais pas insister puisque c'est assez évident. Du point de vue historique, il y a une autre partie qui est la stratégie de censure, de dissimulation. J'étais pas très chaud, encore une fois, dans le livre, je le dis. Hein, j'ai appris des trucs depuis qui m'incitent à penser qu'il y a une vraie stratégie de dissimulation, qui est visible en particulier parce que il y a une trace visible. Hein, c'est un accord OMS-AIEA qui date de 59, OMS, Organisation Mondiale de la Santé. Et l'AIEA, c'est l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a été créée dès la sortie des après-45, enfin juste après 45, je n'ai plus la date exacte en tête, mais qui a pour objectif, pour mission officielle, de favoriser le développement de l'énergie nucléaire. Et cet accord a été imposé à l'OMS en 59, c'est ça que j'ai dit, 59. Et cet accord prévoit, article 3, que toute publication de l'OMS sur les questions nucléaires doit faire l'objet d'une autorisation de la part de l'AIEA. Donc l'AIEA dit oui pour un certain nombre de travaux qui ne les dérangent pas, et puis elle dit non pour d'autres travaux. Et en particulier, il y a un colloque à Genève en 95 qui a duré 4 jours avec 700 chercheurs sur les conséquences radiologiques sanitaires de Tchernobyl. L'AIEA a exigé la non-publication des actes du colloque. Donc il y a une volonté officiel, objectif, moi j'étais stupéfait en lisant ça. Vous irez sur le site de l'OMS ou de l'AIEA, on trouve le même texte, commenté en disant mais non, ça ne veut rien dire. Donc une stratégie de censure internationale qui présente des exemples extrêmement nombreux. Je vais en citer juste un ou deux. Otsura Niwa, qui est professeur émérite à l'Université de Tokyo, a dit lors d'un colloque international radioactivité et risques sanitaires en septembre 2011 à Fukushima, interrogé par un journaliste qui s'appelle Wataru Iwata, qui commence à être un peu connu dans le milieu, qui avait posé la question suivante. Vous qui êtes expert, vous disposez certainement des données qui vous amènent à nous assurer que la situation est sans danger. Si vous avez ces données, pouvez-vous, je vous prie, nous les communiquer? Il s'attira la réponse suivante. Non, nous ne disposons pas de ces données. Et il est totalement déplacé de poser ce genre de questions aux experts internationaux ici présents, puisque nous-mêmes, experts japonais, nous ne les possédons pas. Dans les commissions gouvernementales, nous ne nous attendons pas à poser de telles questions de détail, qui sont d'une grande impolitesse. Nous ne cachons rien, tout simplement, nous n'avons pas les données. Alors, du côté français, il y a aussi ce qu'il faut. Il y a le rapport de 1958 de l'OMS, dont le professeur Tubiana a été l'un des principaux rédacteurs, d'après ce que disent les autres spécialistes. Et dans ce rapport, on lit une phrase assez intéressante. Je cite de mémoire, l'avenir des usages civils de l'énergie atomique serait facilité si montait une génération accoutumée à l'incertitude et à l'ignorance. En 1958 et 1959, on a l'accord OMS-AIEA qui crée une des conditions pour produire de l'incertitude, pour l'accoutumance à l'incertitude et à l'ignorance. Alors, il y a toute une stratégie du doute qui a été mise en lumière par une chercheuse, une sociologue appelée Monique Thébomoni, présentée dans un livre intitulé « La science asservie » où elle montre à quel point, pour l'amiante, pour le plomb, etc., se sont multipliées les pratiques qui consistent pour les industriels à financer des chercheurs qui trouvent que, finalement, les industriels ne sont pas si polluants que ça, etc. Robert Proctor, aux États-Unis, avait démontré pour la cigarette, il avait fait une enquête sur tous les labos qui produisent des études sur la relation tabac-cancer. 100% des labos qui sont financés par des cigarettiers trouvent qu'il n'y a pas de lien entre le cancer et le tabac. Et 100% des labos qui sont indépendants des cigarettiers trouvent qu'il y a un rapport entre cancer et le tabac. Bon, donc, on n'a pas à s'en plaindre, c'est normal. Un chercheur qui est financé. S'il produit des résultats qui déplaisent aux financeurs, il n'a plus de boulot. Donc, il ne faut pas s'énerver et dire simplement, vous qui êtes expert, il faut toujours demander qui vous paye, qui vous finance, avec les noms, les adresses. Et Areva EDF dépense 100 millions d'euros par an en publicité dans la presse et finance des dizaines de milliers d'associations qui font peut-être votre association. C'est une blague. Des dizaines de milliers d'associations qui sont incitées du coup à trouver sympathique Areva EDF. Bon, il y aurait plein d'exemples. Un ami du professeur Tubiana, André Orengo, qui a travaillé pour EDF, est aussi expert dans la commission qui reconnaît les maladies professionnelles. Et par exemple, un militaire qui avait à 30 ans une ostéoporose, Lenny Paris, n'a pas pu bénéficier de la reconnaissance en maladie professionnelle. Alors que 88% des liquidateurs de Tchernobyl ont tous de l'ostéoporose. Enfin, 88% de l'ostéoporose. Et Orengo, qui travaille pour DF d'un côté, et de l'autre en commission de maladies professionnelles, bon, etc. Donc il y aurait plein d'exemples à raconter, j'insiste pas là-dessus. Ah oui, j'oubliais, avant 57, 58, alors 57, c'est Windscale, l'accident nucléaire de Sellafield, le rapport Brookhaven et le Price International. 58, c'est la génération accoutumée à l'incertitude et à l'ignorance. 59, l'accord OMS-AIEA, mais il y a 56 avant. 56, c'est deux choses. C'est Alice Stewart et Otto Warburg dans Science, la grande revue scientifique, qui produisent une étude qui a démarré en 45, qui a une dizaine d'années donc de résultats, et qui montre qu'il n'y a pas de faible dose. La théorie de la faible dose, c'est qu'il y a une sorte de seuil en deçà duquel il n'y a plus rien. Il n'y a pas de maladie. Or, Alice Stewart et Otto Warburg ont démontré en 1956 que des doses même infinitésimales sont susceptibles de produire non pas seulement des cancers, mais toutes sortes de maladies. Donc c'est un moment difficile pour l'énergie nucléaire, 1956-1957. Et donc c'est dans ces années-là que s'est constitué le cadre massif de la... le cadre global juridique et historique de l'énergie nucléaire. Bon, qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre? Peut-être quelque chose un peu philosophique, hein, finalement. Tout ça, ce sont des faits dont la connaissance me paraît nécessaire. Hein. Du point de vue philosophique, bon, il y a déjà deux, trois choses que j'ai dites. Peut-être, on m'a dit 45 minutes, on est proche des 45, hein, je crois. Hein. Puis aussi, c'est très bien qu'il y ait une conversation. Vous avez l'air très sympathique. Du point de vue philosophique, ce qu'on peut avancer comme hypothèse, c'est l'idée suivante, c'est que le nucléaire est est une monstrueuse machine de mort, mais qui dessine la figure d'un être humain qui serait débarrassé de la vie. Parce que finalement, l'homme technologique, hein, l'homme hyper équipé, hein, suréquipé, contient quelque chose comme une horreur du vivant, c'est-à-dire une horreur de la dépendance à l'égard de la nourriture, du nourrissage, de l'eau, de l'air. J'écris volontiers dans le livre là-dessus sur les canards, les poules, les vaches, les veaux, etc. Toute une dimension très archaïque, néolithique, très ancienne de l'humanité qui a besoin de manger les autres vivants pour être vivante d'elle-même et qui ne peut exister que dans un milieu. Cette dépendance à l'égard du milieu est, du point de vue de l'idéologie technoscientifique, insupportable. Et tout est fait depuis 1750 par là, pour rendre de plus en plus invisible, de diminuer au maximum la dépendance de l'humanité à l'égard du vivant, dans une sorte de dénégation de son aspect vital. Et donc, dans la doc, on lit assez fréquemment le fait que les ingénieurs, les scientifiques atomistes bravent le danger, c'est-à-dire qu'ils font pas gaffe, quoi. Ils mélangent les produits, il y a une espèce de toute-puissance qui renvoie au fantasme dans lequel la connaissance, la puissance technique, pouvait empêcher la radioactivité d'atteindre celui qui sait, celui qui utilise les machines, celui qui fait les dosages, celui qui a le savoir technoscientifique. Et c'est très, très infantile, hein, comme rapport, mais je pense que dans le nucléaire se joue quelque chose comme une transformation anthropologique, c'est-à-dire l'abandon d'un homme vivant, hein, d'un être humain qui doit avouer des liens de dépendance à l'égard des animaux, ce qui est insupportable, et qui se transformerait en un être qui fantasmatiquement existe, hein, c'est-à-dire qui aurait une cuirasse impénétrable par la réactivité. Cette cuirasse, elle peut exister, mais elle est percée de trous. Elle existe au sens où le réacteur est dans une enceinte de béton, etc. La bombe atomique est confinée dans un cylindre, et ainsi de suite. Mais tous ces dispositifs ont des fuites. D'où le déni de la fuite, hein, le déni des fuites et de la dispersion de la radioactivité, parce que c'est en même temps la signature de l'échec total du projet technoscientifique de fabriquer un homme qui pourrait enfin, grâce à l'outillage technique, se débarrasser de la lenteur, de la patience, de la vie au sens organique du terme. Il y a une horreur de l'organique qui est un vieux truc, qui vient du christianisme, en tout cas pour l'Europe. Mais le christianisme avait horreur de la mort, pas horreur de la vie. Et en même temps, il ne faisait pas de mal. Enfin, parce que la mythologie chrétienne est un ensemble de mythes dont l'intériorisation sans critique peut-être produit des effets de soulagement. La technoscience contemporaine a une horreur de la vie. La vie comme cette dépendance insupportable, pénible, où il faut attendre que le vivant pousse, que la plante mûrisse et fleurisse, etc. Voilà. J'avais un truc aussi sur la jouissance technologique, mais peut-être qu'il y aura une question là-dessus. C'est-à-dire que je suis disponible pour des questions ou des rebonds, comme vous voulez. Est-ce qu'il faut distribuer le micro? Je ne sais pas.
Faire passer le micro.
Merci à vous d'avoir supporté.
Merci beaucoup. Nous ne vous avons pas supporté, nous vous avons apprécié. des questions. La radioactivité et la médecine. Est-ce que vous pouvez nous donner de renseignements là-dessus ?
Quelques renseignements, mais très peu, parce que je suis pas au point là-dessus. Donc j'écris un autre livre, il y aura un chapitre sur là-dessus, mais il est vide pour l'instant, il est écrit. Radiothérapie, point d'interrogation. Du point de vue historique, dès le début du siècle, dès qu'on a découvert la radioactivité, la fin 19e, début 20e, il y a eu des tas de livres écrits sur la possibilité de soigner avec ça, qui restaient relativement... qui restaient des paroles un peu en l'air. En 1938, aux États-Unis, il y a des recherches qui sont faites, malgré le précédent des Radium Girls. Les Radium Girls, ce sont des ouvrières qui peignaient avec du radium, une peinture au radium, des réveils, merci. Et il y a eu des décès très importants et très nombreux. Il y a eu un procès, les Radium Girls, c'est le premier cas de victimes professionnelles de radioactivité. Et malgré ce contexte-là, en 1938, des types dont j'ai oublié les noms, se demande si on peut pas faire quelque chose de... si on peut pas soigner par la radioactivité. Dans les années 48-50, il y a des publicités aux États-Unis qui expliquent que la radioactivité fait pousser les plantes plus rapidement. Et très tôt, dès 45, l'Atomic Energy Commission distribue des matières radioactives aux universités, aux hôpitaux, pour faire de la recherche. Alors je ne sais pas ce qu'il en est après. Je me demande comment des substances radioactives qui filent des cancers peuvent enlever une tumeur. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais il est certain qu'avant d'obtenir tout quelques résultats que ce soit, il y a une demande officielle émanant de Manhattan Project de savoir si on ne pouvait pas faire de la thérapie avec la radioactivité. Et ça relève de la stratégie d'embellissement du nucléaire. On n'a pas constaté par hasard des effets thérapeutiques, on a posé d'entrée de jeu que la radioactivité devait, un jour ou l'autre, servir à soigner. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Je ne suis pas compétent là-dessus. Mais du point de vue historique, c'est ça. Et voilà, j'ai fini. Non, madame, au fond.
J'aurais voulu savoir si c'est du même ordre, en fait, la difficulté de rapport de l'humain donc avec la dépendance à l'être dont il pourrait être dépendant sur un plan alimentaire et autres, qui fait qu'on va dans une espèce de surpuissance. Est-ce que c'est du même ordre ce qui fait que dans certains pays, on a du mal, même de grandes, grandes difficultés, à aller vers les énergies renouvelables ? Qui ferait que on serait dépendant du vent, dépendant du soleil, dépendant de tout un tas de choses. Est-ce que c'est du même ordre sur un plan philosophique pour vous ?
C'est une question difficile parce que oui, vous suggérez qu'il y a une sorte de relation entre les deux. Oui, l'énergie renouvelable, oui, c'est une dépendance assumée. Une dépendance acceptée et assumée. Mais de toute façon, on ne cesse pas d'être dépendant, avec le nucléaire ou pas. Mais ce qui se passe dans le nucléaire, c'est qu'il y a ce rêve d'énergie surabondante, ce rêve aussi de faire un peu comme ce qui se passe, comme les réactions chimiques qui se déroulent dans le soleil. Il y a l'idée qu'on peut transformer le monde entier. C'était très présent dans les années 45. J'ai lu un livre d'un Américain qui s'appelle Paul Boyer sur le nucléaire comme culture et qui insistait sur le sublime technologique. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est du sublime technologique qui contient une sorte de dépassement radical de la condition humaine, de transformation radicale de la condition humaine. Les énergies renouvelables, au fond, oui, c'est quelque chose comme qui est très ancien, qui est extrêmement ancien, qui du coup est frappé de caducité par le nouveau régime technoscientifique de l'humanité. Si on laisse dans l'ombre ce que c'est que être du même ordre, Oui, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose comme une... Et quand vous dites une difficulté à admettre les énergies renouvelables dans certains pays, c'est dans tous les pays, finalement. C'est une manière de parler.
Il y a certains pays dans lesquels ils sont quand même beaucoup plus, en France, par exemple, ils sont beaucoup plus dans une production à partir d'énergie renouvelable, d'énergie renouvelable à partir de l'eau, à partir de l'électrique, à partir de etc. En France, on est hyper en retard. Il faut une guerre, une bassine avec ça, des chiffres totalement élongés quand même.
Oui, d'accord.
C'est pour ça que j'ai certains pays, parce qu'il y en a qui sont quand même un petit peu plus avancés que d'autres.
Oui, en France, on protège l'énergie nucléaire de manière massive, avec des falsifications de chiffres assez diverses. Et juridiquement, on rend très compliqué l'installation de dispositifs non nucléaires. Oui, la France, c'est un peu une exception. Enfin, pour autant, je puisse le savoir.
Oui, vous parlez en particulier dans votre ouvrage de 2014 de la destruction de la responsabilité éthique telle que vous avez donné des exemples ce soir et de la valeur morale et la destruction de la valeur morale des actions. Et à partir de là, vous dites que tous les progrès technologiques vont dans le même sens et échappent et contraignent complètement dans un monde sans valeur morale et éthique. Est-ce vrai?
Quelle page? Quelle page? Au début, à la fin? J'ai pas le souvenir de dire une énormité de cet ordre. C'est-à-dire que tout progrès technologique... engendrerait une sorte d'irresponsabilité morale. Non, il y a... Disons que la technologie modifie légèrement, mais pas profondément, pas fondamentalement, la question morale. Sauf certaines technologies. La technologie nucléaire est une technologie de mort, parce qu'on ne peut pas transformer... Une fois qu'on a créé un atome de plutonium, c'est foutu, il est là pour très longtemps. Et donc on a affaire à une technologie très particulière qui doit développer d'autres technologies pour pouvoir contrôler, pour amortir, pour diminuer les effets nocifs de la matière. Les technologies, ça n'existe pas, ou même la technologie, ça n'existe pas. Il y a des technologies très différentes, il faut les examiner une par une. Dans le cas du nucléaire, l'agression est tellement immense que personne ne peut en être responsable. Parce que la guerre nucléaire a eu lieu. Oui, c'est un truc que je n'ai pas dit là, sur la question des bombes. La dissuasion n'a jamais eu lieu. Elle a duré peut-être 2-3 ans au début, entre 1945 et 1949. Entre le temps que les Russes fassent une bombe, on peut peut-être dire que pendant 3-4 ans, il n'est même pas sûr que Staline aurait jeté ses chars d'assaut contre les États-Unis s'il n'y avait pas eu la bombe. Bon, admettons. Mais après, il y a une vraie guerre nucléaire qui a été menée chez soi. C'est-à-dire qu'au lieu de faire exploser la bombe chez l'ennemi, on l'a fait exploser chez soi. C'est une guerre extraordinaire, qui a duré 40 ans, qui ne s'appelle pas une guerre, puisqu'on dit que ce sont des essais nucléaires. Mais un essai, c'est une vraie explosion. Une explosion qui peut être gigantesque. Et donc, on est dans un brouillard qui provient du fait que, de toute façon, la matière nucléaire... est mortel. Donc, la matière nucléaire est criminelle. Et donc il ne peut pas y avoir de progrès technologique avec ça. Et donc ça n'implique pas que tout progrès technologique soit forcément producteur d'une destruction de la morale. Mais on a affaire à une telle surpuissance et une telle surpuissance de mort. Il y a deux trucs, il y a la surpuissance et la surpuissance de mort. Ça fait beaucoup. Et ça anéantit... Ça anéantit la responsabilité, parce que la responsabilité, ça consiste à répondre de ses actes. Et personne ne peut répondre de ça. Ça fait dire à Günther Anders, qui est un philosophe allemand, que la technique est devenue le sujet de l'histoire. Donc la technique est devenue le créateur de l'histoire, et que nous sommes devenus des moyens pour la technique de se développer. Bon, je pense que c'est un peu une fable, hein. Enfin, c'est sur le mode d'une fable. Mais ça vaudrait le coup d'être détaillé, parce que il y a des objets technologiques qui sont pas nocifs, qui sont pas néfastes. Mais c'est mal posé le problème, parce qu'il y a tellement de déchets, tellement de machines destructrices qu'il faudrait arrêter d'inventer du neuf, et inventer du neuf mais qui s'occupe de l'ancien. C'est-à-dire des machines qui nettoient, qui récupèrent les déchets, qui décontaminent vraiment, parce que peut-être ça existe, hein. Peut-être qu'il y a des plantes bien utilisées qui absorbent des algues, ou même des poissons peuvent stocker 100 000 fois plus de radioactivité que celle qu'on mesure dans la rivière où ils se trouvent. Donc il y a forcément, enfin très probablement, toutes sortes de techniques qui permettraient de diminuer la radioactivité, de diminuer la pollution, mais on n'est pas du tout dans cette logique. On est dans une logique capitaliste, dans laquelle il faut du profit immédiat, rapide. D'ailleurs, c'est peut-être ce qui va couler les centrales nucléaires françaises, c'est la baisse de la rentabilité, qui est déjà très artificielle. Mais du point de vue des techniques, oui, je pense qu'on peut quand même dire finalement que si on est toujours d'accord pour de l'innovation gratuite, hein, comme si on arrivait, comme si on débarquait dans un monde tout neuf, si on continue comme ça, on va au moins aller très mal. Et qu'une technique qui serait morale, ce serait une biotechnique respectueuse du vivant, et qui s'efforce de restaurer, de diminuer la pollution dans le monde. Il faut que nous réclamions, arrêtons d'avoir des téléphones hyper sophistiqués, avec télévision incluse, terrain de golf replié, etc. C'est l'avenir. Arrêter toutes ces conneries et demander, exiger des machines qui nettoient, qui récupèrent les vieux déchets, qui récupèrent les vieilles machines, les vieux objets techniques, et tout ça dans le but de conserver la vie. Donc la morale fondamentalement, elle est un impératif de protection de la vie, de défense de la vie. Le nucléaire, comme il est appuyé, comme c'est une technique appuyée sur une matière de mort, une matière mortelle, est fondamentalement immoral.
Deux, trois.
Oui, pardon.
Immoral et en même temps, quand il y a des accidents comme Tchernobyl, et qu'on voit tout, enfin on les voit pas, hein, c'est radioactif, vous l'avez dit vous-même. Et pourtant, autour de Tchernobyl, la vie semble reprendre, même si on ne peut pas y aller. Et quelle vie, mais pourtant. Voilà, enfin, ça fait quand même réfléchir et on se dit, alors tous ces grands espaces-là, on ne peut pas accéder et pourtant la vie reprend, mais on n'y va pas, mais pourtant la nature reprend le dessus. Voilà, alors ça pose. Ça va...
Sur Tchernobyl, les environs de Tchernobyl, il y a une controverse sur la question de la reprise de la vie. Il y a pas mal de chercheurs qui ont repéré des transformations assez importantes du génome de certains animaux, notamment Michel Fernex a travaillé sur le papillon. Il y a pas mal d'études et il y a un rapport qui vient de sortir, que j'ai commencé à lire, qui est vraiment énorme. Donc je ne peux pas vous dire ce qu'il y a dedans, mais enfin, vous pouvez le trouver sur le web, c'est un rapport de l'Académie des sciences de New York qui fait la synthèse de la recherche sur Tchernobyl. Ce qui apparaît et qui est visible aussi autour de Fukushima, c'est deux choses. Ce sont des transformations génétiques d'un certain nombre d'animaux, une baisse de la fécondité très, très visible d'autres animaux, notamment des animaux sauvages. Ça, c'est l'aspect, disons, biologique pur. Et puis, il y a un aspect social, c'est que dans les deux cas, des programmes qui ont été financés par l'Union européenne, par l'OMS ou par l'ONU, qui se nomment COR, CODIRPA et ETHOS, sont des programmes qui visent à pousser, à faire revenir les habitants dans les zones contaminées. malgré le degré très élevé de contamination. Et c'est l'idée que chacun doit gérer son exposition à la dose. Avec un dosimètre, il ne faut pas aller dans les forêts parce qu'elles sont très polluées, il ne faut pas manger de plantes du coin. Oui, à Tchernobyl, il y a un trafic de légumes radioactifs. C'est-à-dire qu'on peut acheter des légumes radioactifs pour les donner à quelqu'un qu'on n'aime pas. Quoi. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais... Donc, du point de vue biologique, il semble qu'il y ait des transformations assez importantes. Le taux de cancer chez les enfants à Fukushima est 100 fois plus élevé, le cancer de la thyroïde est environ 100 à 150 fois plus élevé que la moyenne mesurée dans les pays industrialisés. Donc il y a cet aspect biologique qui a l'air un peu grave, mais qui ne sera visible qu'au long terme, qui n'est visible que les années passant. Et puis il y a tout à fait opposé deux choses d'ailleurs, ce que je viens de raconter sur l'expansion du traitement libéral, la gestion de la dose, c'est-à-dire que chacun doit s'occuper de sa propre dose comme si c'était la sienne, sa propre radioactivité comme si c'était la sienne. Et puis il y a aussi, ça c'est pour Tchernobyl, il y a un tourisme radioactif. C'est-à-dire qu'on propose pour un certain prix de venir cramer un peu, d'être exposé un peu à la radioactivité, de visiter les villes en ruine. Bon, c'est surtout vrai pour Tchernobyl. Il y a Fukushima, il y a environ 130 000 personnes, 130 000 réfugiés nucléaires, si on peut dire, qui ne veulent pas revenir à Fukushima. Le gouvernement japonais a prévu de supprimer toutes les aides et de virer les gens en 2017, 3 ans avant les Jeux Olympiques de Tokyo, je pense, au Japon en tout cas. Donc sur la question du vivant, la vie continue, c'est vraiment une phrase de propagande. Il y a des indices très sérieux, il y a beaucoup d'études, il y en a de plus en plus, qui montrent qu'il y a des atteintes au génome. Des insectes qui ont une patte 2 fois plus grande que d'autres. Et ça a l'air d'être inscrit dans le. D'être une transformation inscrite dans le. Vous voyez ce que je veux dire.
D'autres questions ? Bernard. Bon, je ne sais pas si la question arrive à prénommer, mais en fait, à travers ce que vous présentez, ce que vous défendez comme idée et analyse de la situation et des conséquences nucléaires, moi, personnellement, ça me renvoie à la situation actuelle par rapport au risque de terrorisme, en quelque sorte. Et on a, pourquoi pas, et j'ai lu apparemment que certains pensent, personnellement, je n'ai pas d'idée déterminée, mais... Certains pensent justement qu'il y a un lien, il y a une approche, une similitude avec le nucléaire et la société de protection qui s'est bâtie autour du nucléaire. Le nucléaire, c'est dangereux, il faut faire attention, il y a des zones interdites, il y a des risques internationaux, il y a des gens qui travaillent, qui peuvent en souffrir, tout le monde le sait. Donc, à travers le nucléaire, notre société, je crois que c'est ce que vous expliquez, s'est habitué à une sûreté, à des garanties ou à être irresponsable, je ne sais pas. Et aujourd'hui, à travers le terrorisme, on tient le même discours. C'est très dangereux, ça peut vous arriver, ça peut être ce soir, ça peut être là. Il faut se protéger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Qu'est-ce que vous en pensez ?
J'ai pas compris la question. Ce que je peux dire là-dessus, comme contribution à la réflexion collective, c'est l'idée suivante, c'est que si on s'intéresse au terrorisme, si on prend au sérieux l'hypothèse terroriste, il semble qu'il y ait de quoi, avec les drones qui survolent, les drones inconnus qui survolent les centrales. Le terrorisme en question ne ferait qu'actualiser une potentialité qui est constamment actuelle. C'est-à-dire que ce soit un type, qui un djihadiste qui fasse exploser une centrale, ou bien une panne technique quelconque, ou une erreur humaine, comme on dit, dans tous les cas, la violence de la radioactivité, la violence de l'accident nucléaire est immense. J'avais lu un rapport d'un général de corps d'armée de 2013 qui expliquait textuellement que si une centrale explosait en France, on serait dans une situation analogue à une guerre avec un pays extérieur. Alors c'est un général de corps d'armée qui dit ça, un type très, très haut placé. Si un réacteur entrait en fusion en France, on serait dans une situation analogue à celle d'une guerre contre un autre pays. Ça signifie que c'est une perception qui me semble très juste. C'est-à-dire que les êtres radioactifs, ce sont des armées de type qui sont tout le temps en activité. Et une armée, au fond, même une armée qui a un front, elle ne fait pas tout le temps la guerre. Quoi. On fait la guerre l'après-midi, on se repose la nuit, je ne sais pas. Les types ne sont pas tout le temps en train de tirer à la mitraillette. De temps en temps, ils regardent, ils observent, ils attendent. Avec les soldats du nucléaire, c'est permanent. Chaque seconde qui passe, ils balancent. Ils balancent 140 millions de pulsations par minute, je crois que c'est ça, pour le plutonium. C'est une armée en guerre, mais en guerre perpétuelle et absolue. Et donc la sécurité est strictement impossible. Alors, j'ai l'impression que vous vouliez parler d'autre chose qui était l'habituation à la sécurité. Moi, je dirais plutôt qu'on est dans une habituation à l'insécurité, qui a commencé assez longtemps, et qui est une sorte de phénomène social, puisque le capitalisme nous dit aussi ton travail peut disparaître, ton entreprise peut fermer ses portes, tu dois pouvoir t'adapter, tu dois t'adapter tout le temps. C'est devenu un impératif scolaire. J'ai été récemment à une réunion organisée par des écoles de formation des profs au lycée, où un psychologue de l'éducation expliquait que l'école servait à adapter les jeunes au marché du travail. Alors j'ai dit, mais adapter, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Bon, ça veut dire que c'est une vieille histoire hein, qui a démarré avec le protocole de Lisbonne en 2005. Oui, excusez-moi. Donc oui, il y a une idéologie de l'insécurité qui la valorise beaucoup, qui est liée d'ailleurs à l'idéologie au paradigme du doute. Ce que j'expliquais tout à l'heure, on s'était forcé dans plusieurs domaines industriels de favoriser les chercheurs qui produisaient des expertises contraires à d'autres chercheurs, à celles d'autres chercheurs. Et donc ce paradigme du doute, on le retrouve dans le paradigme de l'insécurité. Parce que j'évoquais le rapport de 1958 de l'OMS, c'est pas la photo. Le rapport 58 de l'OMS qui souhaitait la montée d'une génération habituée à l'incertitude et à l'ignorance. Bon. Et donc il y a un ensemble d'aspects négatifs qui sont chargés de faire écran pour qu'on ne voit pas que ça continue. Et qui conduisent à nous faire accepter à peu près tout, quoi, tout et son contraire. Donc, société de protection, je ne crois pas, on est dans une société qui nous demande... qui propose d'interpréter de manière virile la résistance au changement, supporter l'insécurité, la souffrance, la solitude, être plus fort. Il y a vraiment une exacerbation d'un modèle viriloïde qui disqualifie la solidarité, qui disqualifie le souci de l'autre, la morale, enfin ce qui constitue les communautés humaines depuis longtemps. Je suis désolé de ces banalités.
Deux questions.
Oui. En tant que philosophe, comment on peut expliquer finalement que l'homme démiurge va créer des radionucléides qui auront des millions d'années de vie, et en même temps les grands groupes, je pense aux chimistes, aux semenciers, qui détruisent finalement le vivant qui, lui, a essayé de pendant des millions d'années, d'arriver jusqu'à nous. Alors comment ce parallèle ou cette balance entre créer quelque chose et toujours dans le négatif, bien entendu, par rapport à la vie, des choses qui vont durer éternellement, et puis supprimer des choses qui arrivent de loin. Vous avez une idée ?
La démiurgie atomique obéit à la logique de la guerre, c'est-à-dire à la logique de la destruction la plus forte. La guerre, au fond, qu'est-ce que c'est ? C'est une rencontre entre deux groupes, enfin deux partenaires, et la question c'est de savoir qui est le plus fort que l'autre. Donc la guerre a une logique de destruction, et la démiurgie atomique s'inscrit dans cette logique de destruction. En ce qui concerne l'agriculture sous pesticides, on est dans une autre logique, et celle du capitalisme. C'est-à-dire la production de profit. Et cette production de profit, elle est articulée à une apparence, un aspect d'apparence, qui est l'augmentation. Dans la guerre, on détruit, on augmente la puissance de détruire, mais on augmente les choses détruites. Hein. Dans le cas du capitalisme agro-industriel, on détruit aussi, mais il faut surtout produire. Et donc, il y a une augmentation de la productivité, des céréales et tout ce qu'on voudra. Et cette augmentation, c'est l'aspect positif. C'est ce qui nous permet d'aimer l'agro-industrie. Et elle s'est présentée comme ça, comme une sorte de fée bienveillante dans les années 50, malgré une résistance assez forte des milieux paysans au début. Les Trente Glorieuses, ça n'a pas été une révolution silencieuse. Il y a eu beaucoup de conflits, mais qui ont été effacés de la mémoire collective. Donc deux logiques différentes. Une logique négative dans le cas de la guerre, et une logique capitaliste qui est double, à la fois accroître les produits, enfin, augmenter la masse de produits, hein, donc une technologie augmentative, et augmenter les profits, et si besoin, avec une hiérarchie, c'est-à-dire qu'on augmente la masse de produits, si et seulement si les profits augmentent avec. Mais ce n'est pas la même logique. Le nucléaire s'inscrit dans les deux, au fond, parce que la production d'énergie électrique relève de l'augmentation, la demande d'augmentation spécifique à l'énergie électrique est typique d'une partie de la technologie. La technologie sert toujours à deux choses. À la fois, elle a une dimension d'augmentation et une dimension de suppression. Parce que la technologie suppose qu'on transforme une matière, qu'on transforme une donnée pour aboutir à un certain résultat utilisable facilement. Ce qui suppose, en transformant la matière, de changer sa forme, de la détruire en partie, donc dimension négative, dans laquelle la puissance s'exprime comme destruction. Et il y a une dimension positive, c'est-à-dire qu'on transforme pour obtenir autre chose qui n'existait pas auparavant. On prend un arbre, on le découpe en planches, on en fait un lit, une table, une chaise, etc. Donc on nie quelque chose de naturel et on ajoute, on invente un objet qui n'existe pas dans la nature, quoi, qui est un lit, une table, une chaise. Et c'est la partie positive, créatrice de la technologie. C'est pourquoi la production électrogène joue un rôle de paravent et a servi à ça. Elle a d'abord servi à ça, Atom for Peace c'était ça, faire croire qu'on allait avoir une énergie illimitée, sécure, gratuite, quasiment gratuite. Et c'était pour recouvrir la dimension strictement négative de la bombe atomique, de ce qui est désirable par ailleurs, et qui est l'augmentation, qui est l'accroissement. Mais qui s'accorde avec une autre demande qui est celle du capitalisme. Donc c'est là que c'est compliqué. C'est clair. On a deux logiques qui se recouvrent en partie et qui s'opposent en partie.
Oui, je voulais vous demander ce que vous pensiez ou pensez de la théorie de la religion du progrès. Je fais référence notamment à un des derniers livres de Robert Heidegger. Est-ce que vous pensez qu'il y a une religion du progrès, notamment en France? Vous m'avez dit en aparté aussi que vous avez été longtemps pro-nucléaire. Est-ce que vous êtes donc défroqué, si je puis dire? Qu'est-ce qui vous a fait basculer? Ce serait peut-être éclairant que vous nous en parliez.
Bon, il y a un léger malentendu. C'est pas que j'étais pro-nucléaire, c'est que j'étais indifférent. Avant 2011, avant Fukushima, j'avais 22-23 ans en 86, au moment de Tchernobyl. J'étais étonné que le nuage atomique se soit arrêté aux frontières, mais bon, j'ai pas accordé plus d'importance que ça. Et j'ai accepté la fable selon laquelle il s'agissait d'un accident soviétique et pas d'un accident nucléaire. Et c'est en 2011 que ça a changé, parce que ça s'est inscrit dans un autre cadre, dans un cadre de réflexion de plusieurs années sur la technique. J'en étais pas du tout là en 86. Donc pour nucléaire, non. Mais je pensais que la critique acceptable, c'était celle contre les bombes. J'avais pas l'impression qu'on s'en servait beaucoup. J'étais ignorant, quoi, pour simplifier. Ce qui m'a fait basculer, c'est Fukushima. Comme pas mal de monde. Alors, sur le livre de Robert Edeka, je l'ai pas lu. Donc je vais avoir du mal à en parler. Et quant à la religion du progrès, il y a eu une religion du progrès qui s'est construite, en gros, avec l'optimisme mélioriste du XVIIIe siècle, avec le scientisme du XIXe, et qui a été repris, développé, amplifié avec la technocratie administrative française des années 45-50, de toute la période des Trente Glorieuses. On a affaire à des plans pas soviétiques, hein, enfin d'inspiration bureaucratique pour transformer la société française de manière massive, et cela par la technique. Donc c'est pas tellement une religion du progrès, enfin c'est une religion qui... C'est une rigidité, on appelle ça comment, du dirigisme administratif, bureaucratique, maquillé en progrès. L'aspect religieux consiste à exhiber un élément de spiritualité pour masquer la brutalité des rapports sociaux, dans lesquels l'État impose ici des centrales, là des autoroutes, etc. Donc... Je pense que tout discours qui tend à transformer un objet socio-technique ou socio-politique en religion est suspect. Parce que très souvent, ce sont des rapports de force qui sont maquillés, qui sont dissimulés. Je ne sais pas si j'ai pas une question. Après, si, je réponds à aucune question.
Si, si. Mais est-ce que vous croyez que chez l'homme occidental, enfin, chez l'humain occidental, il n'y a pas l'idée que, malgré tout, le progrès va faire qu'on va s'en sortir ?
Comme ça, sans réfléchir beaucoup, je dirais oui. Mais est-ce que l'homme occidental, ça existe ? Est-ce que je pense qu'on gagnerait. Oui, on peut le dire, moi je suis d'accord avec vous. Je dis oui. On sera plusieurs à le faire sans doute. Mais peut-être qu'on gagnerait davantage à identifier le discours du progrès comme étant un élément dans une stratégie globale qu'on pourrait décrire comme des rapports de force entre groupes sociaux. Qui veulent chacun un peu plus de pouvoir. Et donc à sortir des grandes phrases, l'homme, la nature, le progrès, tout ça, ça n'existe pas, au fond, c'est des objets idéologiques. Et je pense qu'on a intérêt, globalement, en général, à avoir tout le détail. Qu'est-ce qu'il y a derrière chaque discours ? Forastier, je crois, hein, qui était un des chantres des Trente Glorieuses, décrivait la paysannerie française avant 1945 comme étant la même depuis le néolithique. Et décrivait donc l'industrialisation comme étant le moyen de sortir de la préhistoire pour entrer dans l'histoire. Donc, est-ce que c'est de la religion ? Est-ce que c'est de l'idéologie ? Oui, sûrement. Est-ce que c'est de la religion ?
Bien, je vous propose, s'il n'y a pas d'autres questions, de passer à côté. Les nourritures qui vous seront servies, j'espère qu'elles ne seront pas irradiées. Et vous avez un livre là, qui vous est proposé. Vous voulez en parler ?
Merci beaucoup de votre accueil, vous êtes très, très sympathique, très enveloppant, et n'imaginez pas à quel point c'est un soulagement, parce que j'en ai de plus en plus marre de faire ces rencontres. C'est vraiment douloureux de remanier tout ça, de remuer tout ça, de voir qu'il y a si peu de progrès. Bien que depuis quelques mois, le cercueil du nucléaire commence à avoir des signes de fabrication. Enfin, le chemin est encore long. Voilà. Merci beaucoup à vous.
Bien, je suppose, vous avez compris qu'il y a aussi les livres de M. Delfour qui vous sont proposés. Voilà, merci beaucoup. Et j'espère que vous nous accompagnerez à côté.